VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous. 11h, temps universel. Les Algériens se rendent aux urnes jeudi pour choisir leurs députés. Un scrutin qui devrait confirmer la prééminence du parti présidentiel et dont la participation est le principal enjeu. Ces élections législatives surviennent en plein marasme économique. Le pays riche en or noir traversant une grave crise financière en raison de la chute de ses revenus pétroliers. Aucune surprise n'est attendue lors de ce scrutin, alors que le Front de libération national, le FLN, règne en maître absolu sur la vie politique depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Au Gabon, près de 200 syndicalistes ont été dispersés par les forces de l'ordre lors d'une manifestation organisée hier à Libreville à l'occasion du 1er mai. Cette manifestation, qui n'était pas autorisée selon la police, avait été organisée par les militants de Dynamique Unitaire, une coalition de syndicats de plusieurs secteurs d'activité. Le Gabon est toujours en proie à des tensions politiques, économiques et sociales, 7 mois après la réélection contestée du président sortant Ali Bongo Ondimba. En Côte d'Ivoire, le discours du président Alassane Ouattara était très attendu à l'occasion de la fête du 1er mai. Les fonctionnaires ivoiriens menacent depuis quelques jours de déclencher une nouvelle grève générale et le feu couve également dans les casernes militaires. Pour Théodore Gnagna Zadi, président de la plateforme des fonctionnaires, la moisson est en deçà des espérances.
Nous avons un sentiment mitigé. Dans tous les cas, nous avons mené une lutte. Des choses ont été faites par l'État. Et en dernier ressort, les mesures de rétorsion qui frappaient près de 400 de nos camarades ont été levées. Pour cela, nous félicitons déjà, n'est-ce pas, le gouvernement pour avoir réagi ainsi. Mais sur la question principale, n'est-ce pas, du stock des arriérés, nous restons sur notre faim. Nous attendions aujourd'hui une reconnaissance et un chronogramme clair de paiement. Nous avons été surpris qu'actuellement, on nous dit encore qu'on veut voir clair dans cette affaire.
Le syndicaliste ivoirien Gnagna Zadi au Burkina Faso, à l'occasion de la fête du 1er mai, les syndicats ont dénoncé à Ouagadougou une impunité pour les auteurs de crimes de sang ou crimes économiques sous l'ancien régime, alors que s'ouvre jeudi le procès du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Lionel Gaïma.
La déception des populations touche à l'impunité dont continuent à bénéficier les auteurs de crimes de sang et de crimes économiques, a déclaré le président des centrales syndicales Georges Yamba Ouédraogo. Les prédateurs et autres pilleurs de richesses de notre peuple, les auteurs et commanditaires de crimes, y compris ceux commis pendant l'insurrection et la résistance au putsch, cela coule douce tant au pays qu'à l'étranger, a-t-il déploré. En octobre dernier, le Parlement a adopté un projet de loi visant à reprendre plus de 105 000 parcelles illégalement attribuées à des dignitaires de l'ancien régime du président déchu Blaise Compaoré. Cette loi n'a pas toutefois encore été mise en application. Ouvert jeudi, le procès du dernier gouvernement de l'ex-président Blaise Compaoré, poursuivi pour son implication présumée dans la répression de l'insurrection qui a fait une trentaine de morts et plus de 600 blessés en octobre 2014, a été renvoyé au 4 mai.
Au Tchad, les enfants réfugiés centrafricains, abonnés absents à l'école dans 4 camps du département de la Niapende, région de l'Ogone orientale. Les apprenants sont plutôt dehors à la recherche de leur pitance quotidienne. Le secrétaire général du camp de Gondje, Dumkel Armand, explique les raisons de cette déperdition scolaire.
Selon les parents, c'est la réduction de vivres et puis la suspension de vivres dans d'autres catégories qui a fait que les enfants n'ont pas pu avoir la nourriture nécessaire pour leur survie. Donc eux-mêmes se lancent à la recherche des pailles ou des fagots pour aller vendre afin de subvenir à leurs besoins.
Atmosphère de fin de règne en Afrique du Sud où le président Jacob Zuma a dû annuler sa participation aux célébrations de la fête du travail, les travailleurs lui ayant signifié qu'il n'était pas le bienvenu. Pendant ce temps, la lutte pour sa succession s'intensifie au sein de l'ANC et son parti. Timothée Donangmaï a recueilli l'analyse du professeur André Thomas Aoussen de l'Institut du droit international et comparatif à l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria.
L'opposition contre le président Zuma a monté à un niveau même de fièvre et il est un peu isolé dans le parti. Il y a presque plus de factions qui l'appuieraient ouvertement. Il a évidemment encore des clans, des cercles qui l'appuient parce qu'il s'intègre avec lui dans des intérêts économiques et des intérêts d'affaires. mais politiquement et dans la politique de base, il a vraiment perdu beaucoup d'appui. Surtout la grande fédération des syndicats, la COSATU, a décidé de joindre ceux qui demandent la démission de Zuma.
C'est un sérieux revers pour le président sud-africain. Que va-t-il faire?
C'est parfois la tragédie des présidents qu'après quelques années dans le pouvoir, ils perdent le sens de la réalité et ils n'arrivent pas à comprendre que les affinités et les préférences des électeurs peuvent changer fondamentalement. Et pour Zuma, vraiment, c'est la fin de son pouvoir. Il est encore le président, formellement. Il peut organiser des délais pour un vote secret dans l'Assemblée nationale avec un vote de la majorité simple des députés. Pourrait provoquer la démission de Zuma. Sauf que pour que cela arrive, il faudrait avoir un accord préalable que la votation soit secrète. Parce que les députés de l'ANC qui appuieront un vote de non-confiance en Zuma auront un peu peur. Ils se sentiront intimidés de faire ça avec un vote ouvert.
La lutte pour la succession du président Zuma s'intensifie avec notamment ce duel entre Cyril Ramaphosa et Nkosasana Dlamini Zuma. Comment voyez-vous cette confrontation?
Bon, il n'y aura pas de majorité ni pour l'un ni pour l'autre. Je pense pouvoir dire que peut-être 35% des délégués de l'ANC pour une conférence. D'ailleurs, il y a une conférence à venir en mois de septembre. Et avant, maintenant, ce mois-ci, en mois de mai, il y aura une réunion très importante de définition politique, de réflexion politique. Je pense que la madame Dlamini Zuma, l'ancienne épouse du président Zuma, pourra rassembler peut-être 35% des délégués. Et M. Ramaphosa peut-être aussi une trentaine ou 35, peut-être 40%. Mais il n'y aura pas un front uni dans le parti pour le choix d'un nouveau président.
Le professeur André Thomas Haussen, joint à Pretoria en Afrique du Sud. Un membre présumé des insurgés islamistes Shebab somaliens a été arrêté par la police dans le sud des Pays-Bas grâce à des informations transmises par les services secrets néerlandais indiquées le parquet ce mardi. Selon ces informations, l'individu arrêté à Sint-Oden Road, un homme de 22 ans qui est suspecté de participation à une organisation terroriste, est actif depuis l'année dernière en tant que membre des insurgés islamistes Shebab liés à Al-Qaïda au sud de la Somalie. Les Pays-Bas sont en état d'alerte depuis les attentats de Paris en novembre 2015 et les attentats en Belgique à l'aéroport de Bruxelles, Zaventem, et dans le métro de Bruxelles en mars 2016. Au moins 24 civils et combattants anti-djihadistes ont été tués aujourd'hui dans des attaques suicides du groupe État islamique et les combats qui s'en sont suivis près d'un camp de réfugiés et de déplacés dans le nord-est de la Syrie. Au moins 5 kamikazes de l'État islamique se sont fait exploser près d'un camp de réfugiés irakiens et de déplacés syriens dans la province de Hasake, a indiqué à l'AFP Rami Abdelrahman, le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Au moins 10 soldats irakiens ont été tués ce mardi dans une embuscade du groupe État islamique à Ratba, une localité de la province occidentale d'Al-Anbar. Cette dernière attaque porte à au moins 26 le nombre de membres des forces de sécurité et des gardes frontières tués depuis le 23 avril dans des attaques de l'État islamique dans cette région.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
7h08 à Washington, la Chine a demandé aujourd'hui la suspension immédiate du déploiement du bouclier antimissile américain THAAD en Corée du Sud, alors que Washington a annoncé que ce système était désormais opérationnel afin de contrer la menace de la Corée du Nord. Pékin dénonce depuis des mois la mise en place de ce dispositif qui entrave, selon le gouvernement chinois, sa propre force de dissuasion. Le président américain Donald Trump doit s'entretenir téléphoniquement aujourd'hui avec son homologue russe Vladimir Poutine, a annoncé la Maison-Blanche. La présidence américaine n'a pas précisé de quoi les deux dirigeants allaient parler. Et puis l'opposition vénézuélienne a promis pour aujourd'hui et demain de nouvelles actions de protestation contre le président Nicolas Maduro, qui a lancé lundi un processus pour une nouvelle constitution. Et mardi soir, ce soir donc, le Parlement, seule institution contrôlée par l'opposition, devait discuter des conséquences de la décision de M. Maduro. Le président a en effet annoncé lundi devant plusieurs milliers de ses partisans rassemblés dans le centre de Caracas à l'occasion de la fête du travail du 1er mai, la convocation d'une assemblée constituante. Jean-Roger Billon, le prochain journal, c'est dans 50 minutes, en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi et merci pour votre fidélité. À plus tard.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.